à tous et heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Grande Table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une histoire de l'alimentation avec Jacques Attali. Sociabilité, convivialité, l'économiste et essayiste déplore le peu de temps que nous consacrons aujourd'hui à bien manger. À la lumière du passé, il imagine aussi de quoi nos repas seront faits demain. Il est à retrouver à partir de 12h55 dans la Grande Table des idées. Mais d'abord, pessimiste, moraliste, anticonformiste, corrosif, Bret Easton Ellis était de passage à Paris la semaine dernière. Il publie White chez Robert Laffont, où il se dresse contre le politiquement correct, mais revient aussi sur sa cinéphilie et sa relation à l'écriture. Autoportrait de l'écrivain dans l'époque. Tout de suite, l'auteur de American Psycho et de Moins que Zéro fait son show au micro de Raphaël Bourgois.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Bonjour Bret Easton Ellis.
Bonjour.
Alors White est votre premier recueil de non-fiction, c'est un livre-enquête sur votre œuvre, réflexion sur une Amérique du post-empire, ce sont vos mots, la génération Y, les millennials, la bien-pensance qui tue l'art selon vous, mais pas un essai, surtout pas, une voie littéraire sur l'époque, sur la dernière décennie du XXe siècle et les premières du XXIe, sur le passage de l'analogique au numérique. Ce projet est né de votre série de podcasts. Pourquoi est-il important pour vous de leur donner cette forme littéraire ? Qu'est-ce que ça apporte, Bret Easton Ellis ?
Je ne peux pas faire autre chose que de travailler sous forme littéraire. J'ai commencé son livre comme j'approche tous mes romans. Une voix émerge. La plupart des essais de ce livre viennent du podcast que je faisais. Ils ont souvent été écrits pour être dits, pas pour être lus. Et donc, lorsque j'ai assemblé White, j'étais très surpris de découvrir que c'était en fait une expérience littéraire, alors que, en écrivant ces pièces, s'assurer que tout ce livre avait un arc narratif qui commençait à un point et finissait à un autre. De beaucoup de points de vue, c'est un essai. Un long essai divisé en 8 parties. Et c'est tout ce que vous avez dit précédemment.
Cela fait 10 ans que vous n'écriviez plus de littérature, Bret Easton Ellis. Vous avez écrit pour le cinéma, pour le web. Pourquoi ces notes réunies ici ne sont jamais devenues un roman ? Vous avez dit écrire en dehors, vouloir écrire en dehors de l'enclave truquée du roman. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je pense que ce serait trop ennuyant en tant que roman. Ce serait beaucoup trop embêtant avec tous ces personnages qui se baladent et tous ces gens qui ont des problèmes psychologiques. Tous ces personnages sont comme des personnages de mes romans, mais vous savez, tous ces millénials et tous ces gens qui s'effondrent à l'ère Trump, ce serait beaucoup trop emmerdant à écrire en fiction. Et je suis arrivé à un point où je pense que les thèmes qui sont intéressants à explorer dans mes romans, eh bien, je veux les explorer maintenant par d'autres voies. Je l'ai fait en série web ou dans des séries TV ou par des films. Et je veux sortir de l'ère analogique et passer à l'ère numérique. Donc, White devient une exploration, c'est mon voyage.
Et donc, il n'est plus possible d'écrire des romans à l'ère numérique ?
Non, c'est pas le cas, mais moi j'en ai écrit beaucoup. Je sais pas combien je dois encore en écrire. J'en ai écrit 7. Zombie, par exemple. Si vous pensez que c'est un roman. Oui, ça l'est. J'en ai écrit beaucoup. Et je sais pas combien d'autres je dois écrire. Non, les romans, j'ai aimé ça. Et je lis des romans sans cesse. Je les emporte avec moi en Europe pendant cette tournée. Mais moi, je veux explorer les thèmes que j'ai explorés dans mes romans par un média différent. Et je voudrais dire que, en écrivant White, ça a aiguisé mon appétit. Ça a aiguisé mon appétit de revenir à la fiction, peut-être. Et je crois que je vais revenir à la fiction cet été. Pas quelque chose de long, mais je pense que ça m'a réintéressé à écrire de la prose. Hein? et parce que j'ai pas écrit de la prose depuis une décennie.
Peut-être pour revenir, Bret Easton Ellis, à ce grand roman américain, je sais pas quel est votre rapport à cette expression. Je vous propose d'écouter un des grands auteurs de votre génération, Jonathan Franzen, s'exprimer justement à ce sujet.
Oh, I hate the phrase great American novel.
Alors, c'est pas une expression que j'aime, hein, c'est grand roman américain, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Quand j'avais 25 ans et que je travaillais sur un roman et que les gens ne savaient rien sur le roman, les gens disaient, mais alors, tu es en train d'écrire un grand roman américain, et ça me rendait dingue, en fait.
Alors,
ça m'intéresserait de faire des recherches sur la naissance de cette expression. Hein. Je ne sais pas qui l'a employée le premier. Une théorie que j'ai entendue, c'est que nous n'avons pas de mythologie nationale, comme tous les autres pays en Europe. Et qu'il y a eu, d'une certaine manière, une espèce de volonté et de rêve que les romanciers allaient s'y mettre et créer cette mythologie. Et effectivement, ça fonctionne différemment dans la culture américaine que dans l'Europe occidentale. C'est pas que les grands romans en France ne sont pas, comment dire, révérés, mais d'une certaine manière, on n'attend pas d'eux qu'ils expliquent ce qu'est la France.
On attend des romans américains, Bret Easton Ellis, qui créent une mythologie. Vous avez vous-même créé un personnage presque mythologique de la littérature américaine, qui est Bateman, le héros d'American Psycho.
Well, first off, that was way too much Jonathan Franzen.
Ah, c'était beaucoup trop de Jonathan Franzen dans votre émission. Beaucoup, beaucoup trop de lui. J'ai pensé que j'allais m'endormir, là. Jonathan Franzen, c'est un grand romancier américain. Et je pense que Corrections and Freedom sont les grands romans de ma génération. Faut que je vous raconte quelque chose avec Bateman. Et pourquoi un écrivain ne contrôle pas son œuvre une fois qu'elle paraît au monde? Bateman n'avait pas un visage pour moi pendant 3-4 ans. Il n'avait même pas un visage pour moi jusqu'à Christian Bale l'a joué dans le film. C'était cette idée qui flottait librement du bonheur, de ce qui se passait dans la culture. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer à quoi il ressemblait. Et donc, je pensais que American Psycho était un roman expérimental. Je pensais que j'allais en vendre 10 000 exemplaires, je ne savais même pas que ça serait publié en Europe. Et pourtant, j'avais tort. J'avais très tort, parce qu'un public de lecteurs a réagi à ce livre et s'y est relié d'une façon que je n'attendais pas. Et donc, oui, dites que Bateman est devenu un des personnages clés des 30, 40, 50 dernières années dans la littérature américaine, mais je n'avais aucune idée que ça deviendrait comme ça. Je n'étais pas au courant que Patrick Bateman allait devenir ce personnage-là. Ben, moi, je pense que je suis déconnecté. Je pense que je ne peux pas prendre le crédit pour cela.
Et pourtant, Bret Easton Ellis, ça ne vous empêche pas de tweeter le jour de l'élection de Donald Trump. Quelque part, Patrick Bateman sourit, qui est un tweet qui vous a valu évidemment beaucoup de des retours très très négatifs. Vous revenez sur ces épisodes dans White, votre dernier livre.
I did tweet that on election
night. J'ai tweeté ça la nuit des élections. Mais je l'ai effacé très rapidement. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient vu. Il y a des gens qui ont pris une capture d'écran. Mais tout ça était tellement électrisé cette nuit-là. Le monde avait changé. Quelque chose s'était produit. Mais j'ai effacé ce tweet. Je ne voulais pas faire partie de cette conversation-là. Je ne voulais pas faire partie de cette conversation sur Trump. Et je l'ai effacé, ce tweet. Mais c'est comme ça que j'utilisais Twitter. Et j'aimais bien être un petit peu provocateur sur Twitter. Utiliser Twitter comme une application qui a été développée pour ça. Il y a des opinions complètement dingues qui se produisent, vous les tweetez et vous regardez combien les gens réagissent à ça. Mais là, c'est fini. Les tweets, c'est pas la réalité. Je n'utilise plus Twitter.
C'est au cœur, Bret Easton Ellis, justement, de votre livre White, cette question de la possibilité encore d'une conversation. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de discuter calmement des choses à cause de ces réseaux sociaux, parce que tout devient très violent tout de suite, presque aussi violent que Patrick Bateman.
Well, hopefully not as violent as Patrick Bateman.
On espère que c'est pas aussi violent que Patrick Bateman. On l'espère. Le problème, c'est que il y a tellement de voix, il y a un océan de voix, et tout le monde a sa propre opinion. Et au lieu que cette opinion soit entendue, il faut la hurler le plus fort possible, et il faut le dire de la façon la plus colérique possible. C'est... C'est beaucoup plus dur d'avoir une conversation lorsque les gens se hurlent dessus. J'aimerais, et oui, White est un appel au débat, un appel à la conversation, pour que chacun se calme et qu'on s'écoute. D'accord, et se mettre à la place des autres, se mettre à la place de l'autre et voir pourquoi on se sent de la manière dont on le sent. Avoir de l'empathie. Et je crois qu'une partie du problème, c'est que peut-être, il n'y a pas suffisamment de gens qui lisent, comme notre président, qui ne lisent pas de romans. Et une des choses qui se produit quand on lit des romans, c'est que on se met à la place de quelqu'un d'autre. Et donc, l'empathie est possible.
Vous avez fait beaucoup de références sur l'importance de lire des romans aujourd'hui. Vous avez donné une interview à la revue America, qui a été éditée en France il n'y a pas longtemps, et où vous étiez beaucoup moins confiant dans le pouvoir ou la puissance du roman. Vous avez changé d'idée? C'est quelque chose auquel vous avez envie de revenir?
Je ne sais pas si j'ai changé d'idée, ou si ce sont les temps qui ont changé ma position. Je me souviens d'une époque où le roman semblait être au centre de l'intelligentsia. Je me souviens d'une époque où mes parents lisaient constamment des romans. Et moi, j'avais des étagères remplies de romans que je dévorais à l'adolescence. Mon père emmenait des tonnes de bouquins avec lui en vacances. C'était son véritable plaisir. Allongé sur la plage, lire des livres de poche. Et moi, je lisais le journal de Richard Burton. Et il racontait Liz Taylor. Et il liste tous les romans qu'il a lus, 65, 66, 67. Et vous rendez compte que le roman était comme une sorte de téléphone. Il y avait tellement d'informations. Et nous, par exemple, on lisait ces trucs-là pour en apprendre sur la vie qui se passait loin, sur avoir des informations. Et c'est la façon dont les gens ont lu Moins que zéro sur ce qui se passait à Hollywood avec des fils de parents riches. Et je crois que le roman joue ce rôle de temps en temps pour moi, mais ça m'attriste de sentir que l'importance du roman a diminué en termes d'importance. Mais de toute façon, moi, j'aime les romans. J'en lis encore. Mais je les écris plus.
Peut-être bientôt, vous nous l'avez dit, Bret Easton Ellis, vous aimez les romans, vous aimez en parler, vous aimez la critique en règle générale, que ce soit sur la littérature, le cinéma, qui est très présent dans ce livre, White. Et justement, puisqu'on parlait de l'impossibilité de la conversation, d'une certaine façon, on pourrait penser que la conversation politique est toujours compliquée. Quand il s'agit de Donald Trump, que les personnes s'écharpent sur la question, c'est une chose. Mais ce que vous regrettez, c'est qu'il n'est même plus possible de discuter des objets culturels, parce que les objets culturels, on les traite pour leur message et pas véritablement pour leur esthétique. Et la première fois que vous prenez conscience de ça, c'est en écoutant cette musique. Manic Monday des Bungles, Bret Easton Ellis. Et en écoutant cette chanson à la radio avec une amie en voiture, vous vous baladez en Californie, que vous avez, vous disputez avec elle, vous dit on ne peut pas aimer cette chanson parce qu'elle donne une mauvaise image des femmes et même les Bungles, ce qu'elles sont devenues, cette espèce de produit marketing, n'est plus du tout aimable. Et vous vous dites, mais comment on peut avoir cette réflexion alors que la chanson en elle-même est super?
Oh yes, because we're talking about ideology.
On parlait d'idéologie contre l'esthétique. Et c'est une des premières fois où j'étais confronté à cette chose-là par cette femme. En fait, c'était dans le Vermont, c'était pas en Californie. C'était à Bennington. Et moi, j'aimais cette chanson. J'aimais cette chanson des Bengals, A Different Light. Et j'étais en voiture avec une amie de fac à moi. Et elle n'avait jamais entendu cette chanson. Elle l'écoute. Et moi, j'ai mis la radio plus forte. Je dis, ah ouais, la chanson est vraiment cool, écoute. Elle dit, mais c'est quoi cette voix? De quoi elle parle, cette fille? Elle doit décider ce qu'elle porte. Elle doit gagner de l'argent pour un mec qui travaille pas. Qui est-ce qui a écrit cette chanson? C'est toi qui as écrit cette chanson? Ah, je dis, non, c'est Prince. Ah, appropriation culturelle, c'est un homme. Non, elle a pas dit appropriation culturelle. Non, elle l'avait pas dit à l'époque. Mais elle faisait référence à ça. Et c'est la première fois que je me heurtais à ça. Et j'étais tellement choqué, quelqu'un qui n'aimerait pas quelque chose, mais pas simplement à cause de l'esthétique, parce que c'est une belle chanson pop, mais à cause du message impliqué qui fait qu'elle n'aimait pas la chanson. Mais bon, c'était vraiment, c'est confus tout ça.
Brett Easton Ellis, vous avez employé l'expression appropriation culturelle. C'était un petit peu anachronique, en effet, au milieu des années 80. C'est très présent aujourd'hui dans le débat aux États-Unis. Il vous est arrivé quelque chose, vous en faites mention dans White, ce roman, ou plutôt ce livre, vous voyez, moi-même je dis roman qui est apparu chez Robert Laffont. C'est que pour avoir critiqué les films de Ryan Coogler, qui est le réalisateur de Black Panther, de Creed et donc de Fruitvale Station, vous avez pris un retour de bâton, comme on dit, un retour de bâton des accusations de racisme. Et donc, vous expliquez que ça vous fait réfléchir sur l'époque. Qu'est-ce que ça dit de notre époque, Brett Easton Ellis?
Ça nous
dit que notre époque est très sensible. Ça dit que, à moins de ne pas être sur la ligne des gens qui pensent certaines choses sur les films où il y a des gens de couleur, à ce moment-là, vous êtes un raciste parce que vous parlez de l'esthétique. Ça vous dit que on vit dans une société qui ne s'occupe plus de l'art. Et on ne peut pas dire qu'on peut ne pas aimer ces films et que sinon on est un raciste. À ce moment-là, il y a un gros problème dans notre culture d'aujourd'hui où l'idéologie a pris le pas sur l'esthétique. Moi, ce que j'aime le plus au sujet de Black Panther, c'était le fait qu'il soit noir. Et maintenant, c'est devenu vraiment un film. Le film est devenu vraiment un film complètement ennuyeux. Et puis, vous savez, regardez maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est des films à la Marvel Comics. Sinon, si on n'aime pas ce genre de film, on est considéré comme étant raciste. C'est un monde horrible dans lequel on vit. Et c'est un lieu horrible pour quelqu'un qui critique des films. Moi, je parle beaucoup de films dans mon podcast et j'ai les mêmes attaques sans cesse. Je n'aime pas le cinéma. Si j'aime pas le cinéma homosexuel, ça veut dire que moi, je me hais moi-même. Si vous aimez pas les films de femmes, vous êtes sexiste. Si vous aimez pas les films faits par des noirs, vous êtes un raciste. Non. Moi, je n'aime pas les films qui prétendent être artistiques, qui prétendent être esthétiques. Et moi, je rejette tous les films s'ils deviennent plus idéologiques que ce que j'aime, ce que j'apprécie.
Alors parlons du titre, White, Brett Easton Ellis, le titre de ce dernier livre. Est-ce que c'est une provocation? À l'origine, ça devait être White Privileged Male, le mâle blanc privilégié. Vous avez raccourci ça à White?
Yes, it was originally white.
Oui, ça devait être homme privilégié blanc. Et c'était le titre pour les premiers jets. Et c'est devenu de plus en plus évident pour moi et pour mon éditeur que c'était, la plaisanterie était poussée un peu loin. Et le livre était un petit peu plus sérieux que ce qu'on pensait qu'il allait être au départ. Et White Privileged Male, homme blanc privilégié, ça semblait bon au départ, mais à la fin, ça ne semblait plus bon du tout. Moi, j'aimais bien ça, mais mon éditeur, non. Moi, je voulais l'appeler comme ça. Mais l'éditeur me dit, non, pourquoi tu ne laisses pas tomber Privileged Man et tu vas l'appeler simplement White. On parle de la neutralité, tu parles de se calmer, de la zone blanche, on n'est pas hyper émotif, on n'est pas plein de colère. Donc finalement, on a eu une conversation finalement sur ce sujet. Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que c'est un hommage à ma romancière, mon essayiste favori, John Didion? Et si quelqu'un le prend de cette manière-là, bon, voilà, le bouquin a fait son travail. Et si le titre vous provoque, eh ben, ça sera la première preuve de ce que j'avance dans mon livre, la surréaction.
Est-ce que Bret Easton Ellis, le rôle de l'écrivain, ce n'est pas justement de porter cette liberté absolue de parole que vous défendez dans White, et peut-être à travers un genre qui caractérise toute votre littérature et qui est encore très présent ici, qui est celui de l'ironie?
L'ironie, oui, a toujours été au centre de mon travail, d'une certaine manière, c'est vrai. L'ironie ne peut vous amener qu'à un certain endroit, ça ne peut pas être l'intégralité du message. Et être écrivain, je pense que ce dont vous parlez, cette notion de liberté de parole, est menacée d'une certaine manière dans notre culture. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je sais que l'expression, la liberté de parole est menacée aux États-Unis. Et c'est vrai spécialement avec les artistes, les créatifs. Il y a une liste de règles qu'on a sur ce que vous avez le droit d'explorer, ce que vous n'avez pas le droit d'explorer. Et le déclencheur, maintenant, c'est ça, dans les maisons d'édition, c'est « Oh là là, on ne veut pas que les lecteurs soient offensés ». Mais moi, en tant qu'écrivain, je veux explorer les choses taboues, je veux que le lecteur se sente attaqué un petit peu. Je ne veux pas ressembler à d'autres choses, je ne veux pas que les sentiments soient mélangés, c'est quelque chose de complexe. Les livres que je veux écrire, la façon dont je veux m'exprimer, et le monde dans lequel on est. Bien sûr, les choses ne peuvent plus être publiées comme elles l'étaient auparavant.
Le livre commence sur vos jeunes années d'adolescent, votre passion pour le cinéma d'horreur dans les années 70-80. Et un peu plus loin, vous décrivez la génération actuelle, celle des millennials, comme une génération pleurnicharde. Wuss Generation, c'est votre expression, Bret Easton Ellis. Pourtant, on a vu cette génération récemment, après la fusillade de Parkland, par exemple, avec les March for Our Lives, ou autour du climat, se mobiliser. Est-ce que ça a fait changer votre avis sur cette génération?
Non, la fusillade de Parkland n'a pas changé ma vision, certainement pas. Mais c'est une indication de là où elle en est, parce que les millénials ont dû se mesurer pendant toute leur génération aux fusillades dans les écoles. Et nous, on n'avait pas de fusillades dans les écoles de mon temps. On n'avait pas d'individus aussi déséquilibrés qu'ils le sont aujourd'hui, de cette génération qui tire dans les écoles. Donc il faut regarder qui est le tireur, il faut regarder qui sont les victimes. Ce sont tous les deux des millénials. Bien sûr, je me sens très mal pour les survivants de ces survivants, de ces fusillades. Mais vous savez, les tireurs sont aussi des millénials. Et donc ça prouve mon point. On ne parle pas de la raison pour laquelle ces jeunes gens sont menés soudain dans des proportions épidémiques. Vous êtes, bon, regardez, par le passé, il n'y a pas eu une seule fusillade au cours de mon éducation scolaire. Et soudain, il y en a tous les jours. Donc je ne sais pas. D'un certain point, les millénials, moi j'ai de l'empathie pour eux. Et il y a un paragraphe dans mon livre, après avoir gentiment les moqué, je donne quelques généralités. Vous savez, moi ça fait 10 ans que je vis avec un millénial. Je me donne le droit de me dire ce qui m'ennuie et ce que j'aime chez eux. Mais j'ai de la sympathie pour toutes ces choses qu'ils ont traversées. Les guerres, le 11 septembre, et un environnement économique horrible, et un président terrible, Trump.
Ce sera ma dernière question, Bret Easton Ellis. C'est ça que vous appelez l'ère du post-empire, qui est une invention théorique centrale dans votre livre?
It's interesting.
C'est intéressant. Les gens sont attirés par cette partie du livre, l'Empire contre le Post-Empire. L'Empire, dans l'histoire américaine, commence après la Seconde Guerre mondiale. Gore Vidal en a parlé, le grand écrivain américain. Il a dit, finalement, l'Amérique est entrée dans sa phase impériale. Ça a soudain été le pays le plus fort du monde après la Seconde Guerre mondiale. Et comme tous les empires, l'empire s'effondre. Et la question, c'était quand cet empire américain allait s'effondrer. Et là, j'ai senti cette différence entre la pensée de l'empire et la pensée post-empire. La pensée empire, c'est montrer sa force, montrer sa puissance, porter une sorte de masque, ne jamais admettre ses erreurs. C'était l'époque des baby-boomers, ce narcissisme, cette génération née après la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des glissements dans la culture après le 11 septembre, et aussi dans la présidence d'Obama. L'ascendance des Kardashians qui donnait le message sur ce qui était permis et ce qui n'était pas permis dans la culture. Et j'ai vu ce changement, que c'était avec Kanye West, avec Charlie Sheen, avec Lady Gaga, avec des comédiens comme Ricky Gervais, la façon dont les gens menaient un show télévisé, James Franco et les Oscars. Et je me suis rendu compte que ce moment était arrivé. Et il m'a semblé que ça suggérait que l'ère de l'Empire était terminée et qu'on passait à l'ère du post-Empire. Et soudain, on est passé à la culture d'entreprise.
Merci Brett Estanelis.
Thank you.
Brett Estanelis au micro de Raphaël Bourgois. Un enregistrement la semaine passée avant l'horrible épanouissement de l'appréciabilité, écrit-il dans White. Je me souviens de ne pas avoir voulu catégoriquement ce que notre culture exigeait, plutôt que le respect et la gentillesse, l'inclusion et la sécurité, l'amabilité et la décence. Mon but était la confrontation, être poussé dans mes retranchements, ne pas vivre dans la sécurité de ma propre boule à neige, rassuré par la familiarité, entouré par ce qui me réconfortait et me couvait. J'avais terriblement envie d'être secoué. J'aimais l'ambiguïté, je voulais changer l'idée à propos de telle ou telle chose, à propos de tout, pratiquement. Je voulais être dérangé et même endommagé par l'art. Cela m'aidait à comprendre que le monde existait au-delà du mien, avec d'autres points de vue, contextes et inclinaisons. Et je n'ai aucun doute concernant le fait que cela m'a aidé à devenir adulte. Cela m'a poussé loin du narcissisme de l'enfance et vers les mystères du monde, l'inexpliqué, le tabou, l'autre, et m'a rapproché d'un lieu de compréhension et d'acceptation. Brett Estanelis, remonté contre la tiédeur du monde et le consensus dans l'art, extrait de White, qui vient donc de paraître chez Robert Laffont, entretien à réécouter sur le fil de vos podcasts de la Grande Table. Un autre rendez-vous à vous indiquer rapidement, l'adaptation par France Culture de L'Amie prodigieuse, la saga best-seller d'Elena Ferrante avec Amira Khazar dans le rôle de la narratrice. C'est un feuilleton en 10 épisodes à écouter ce soir, du lundi 6 au vendredi 17 mai à 20h30 et d'ores et déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr.